Ce soir, je vais parler d'un sujet important. Tous les sujets sont importants pour la vie chrétienne. Chaque parole en 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. 16, toute parole est inspirée par Dieu est profitable pour nous. Donc, chaque parole qu'on enseigne, il y a des applications. On enseigne les doctrines. Quand les gens entendent le mot doctrine, ils pensent, oh là là, indoctriner, c'est un mot qui dit, et ce n'est pas un joli mot, c'est des connotations négatives. Mais doctrine est les pensées de Dieu. Et on est en train d'apprendre comment Dieu pense afin qu'on peut vivre ça nous-mêmes. Et donc ce soir, on va parler de le sujet de l'autorité. L'autorité de la croyance spirituelle. Nous avons une autorité. Et une chose qui est dit à la fin de le livre de Juges. Donc dans le livre de Juges, c'est une période la plus ténébreuse dans l'histoire d'Israël. Les juges, parce qu'on peut voir une descente de le peuple élu, Israël, qui sort de la couverture de Dieu, qui vit des choses indépendantes. Chacun, dans le verset 25 de Juges 21, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblait bon. Dans le Dabé, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Ça, c'est important. À ses yeux. On est dans un monde maintenant de plus en plus avec un manque de vérité absolue. Ça veut dire, c'est bon pour moi, donc si ça ne blesse pas quelqu'un d'autre, je peux vivre ça, mais c'est pour l'autre, il va vivre quelque chose d'autre. Ça veut dire, on n'est pas des absolus dans nos vies. Et quand les absolus sont cassés, quand la fondation est enlevée, qu'est-ce que le juste va faire? Ça, c'est un proverbe. Donc, de voir que la fondation de notre société est écrasée et enlevée, nous n'avons rien. Parce que c'est facile de détruire. Ce n'est pas facile à construire. Et ça, c'est quelque chose dans nos vies. Et juste, je vais terminer cette parenthèse de dire, on a besoin d'être sous l'autorité de quelqu'un. Bob Dylan, il a un chant. Il dit, you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. Whether you serve the God or the devil, you gotta serve. Voilà, tu ne fais pas justice de son chant. Mais pour simplement de dire qu'on est en train de servir quelqu'un, on est sous l'autorité. Premièrement, on peut être sous notre propre autorité. Donc, j'avais dit, comme John Wayne, il était lui-même le Lone Ranger aussi. Pour ceux qui connaissent le Lone Ranger, c'était cet cowboy. C'était ces fameux. Je ne sais pas si je peux expliquer ça, mais le Lone Ranger, c'était quelqu'un. Oui, je suis seul avec ma cheval et je vais vivre comme ça, avec un masque, avec le l'arme, son fusil. Pas fusil, c'est revolver. Lui, comme ça, oui, je vais vivre comme ça. Mais il était seul. Il est un peu comme Lucky Luke, oui, exactement. Lui, il est en train de faire ça. On n'est pas les Lone Rangers. On ne peut pas vivre des choses seul. Mais les gens pensent qu'ils peuvent faire ça. Ils pensent que, oui, je suis le roi de ma propre vie. Je vais vivre comme je veux. Je place ma tête. Ça, c'est notre chant. Quand je place ma tête, ça c'est ma maison, chez moi. C'est Paul Young, je pense, mais ce n'est pas important. Ça, c'est les années 80. Mais, de retourner à la parole, on a reçu une autorité sur nos vies maintenant. Depuis notre nouvelle naissance, on est sous l'autorité de Dieu, sur en fait la protection. Mais on va commencer petit par petit. Quelles sont les conséquences? On pose la fondation. On a dit déjà la prémisse est tout le monde a une autorité. Une autorité de servir quelqu'un d'autre, peut-être le diable, peut-être ce monde avec les valeurs de ce monde, ou peut-être Jésus-Christ. Et nous, nous avons choisi Jésus-Christ. Donc maintenant, on est sous l'autorité de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et quelles sont les conséquences pour nous ce soir? Et la première chose, et nous sommes couverts par Christ et nous sommes protégés par Christ. Donc, cette idée d'une couverture spirituelle. Dans ma voiture, dans le coffre, j'ai deux parapluies. Parce qu'aujourd'hui, quand on a sauté, on a vu le météo suisse que ça va être pleuvoir fort. Donc, quand j'ai vu que ça va être météo pas terrible, j'ai cherché deux parapluies. On n'avait pas besoin, 25 degrés et soleil. C'était très bien. Mais j'ai préparé une couverture physique pour ma tête, pour nous deux, pour la pluie. Mais nous sommes couverts également dans nos vies par Jésus-Christ. On est cette couverture. Et cette couverture, on peut dire le mot couverture, mais quelles sont les implications d'une couverture? Une couverture est une protection. C'est un abri pour nous. En Ésaïe 32, je vais lire le verset parce que c'est dans la notion. Alors, le roi règne selon la justice et les princes gouvernent avec droiture. C'est pas très bien, je vais expliquer. Peut-être je tourne dans le Derby. Et il y aura un homme qui sert comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage comme des roseaux d'eau dans un lieu sec comme l'ombre dans un grand rocher, dans un pays aride. Et c'est ça, Dieu est notre couverture et protection. Ça veut dire, dans ce monde, il y a des orages, nous avons des tempêtes, nous avons les souffrances, nous avons tout ce qui passe. Et Dieu dit, la solution de ça est d'accepter de rester sous la couverture. Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 23, a dit, « Je suis comme un... Oh, Jérusalem, Jérusalem, j'étais comme un... » Je vais tourner dans le verset, c'est mieux de faire ça, de passer de... je vais aller. C'est où? Pardon. Est-ce que c'est 37? Oui, 37. Ô Jérusalem, Jérusalem, qui a tué les prophètes, qui a lapidé ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu ressembler tes enfants comme un poule ressemble ses poussines sur ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Cette idée de couverture, Dieu veut couvrir son peuple et c'est une couverture d'amour. Il faut savoir, c'est une couverture d'amour. Ce n'est pas une couverture imposée, pas une couverture de légalisme, ce n'est pas une couverture de religion, ce n'est pas une couverture d'un dictateur qui dit, voilà, il faut que vous êtes couverts par moi, je vais donner la protection, mais vous donnez le libre arbitre en fait. Tu acceptes perdre la liberté. Non, c'est un Dieu qui dit, choisis-en librement d'être couvert par moi. Et cette couverture, un homme est une couverture pour une femme. Un homme est une couverture pour sa femme. Un chef de travail est peut-être un chrétien et une couverture pour ses employés. Et ça c'est un exemple séculaire. Le gouvernement est une couverture pour le peuple. Le gouvernement suisse, les conseils fédéraux sont une couverture pour tous les habitants suisses. On est une couverture. C'est le gouvernement. Donc on accepte d'avoir une soumission et le gouvernement est responsable pour gérer les choses, pour avoir l'ordre et la justice. Et la protection pour les innocents, la santé, idéalement, un pays est là avec cette structure pour garder les citoyens. Et donc Dieu, c'est le même en fait. Il est l'exemple ultime. Il veut être notre couverture. Et donc, bien sûr, on a accepté Jésus-Christ. On a une nouvelle naissance. Donc, la couverture est déjà là. Mais je peux sauter de cette couverture. Si la couverture est là et je saute de la couverture, qu'est-ce qui va passer? Quand il pleut, je saute de la couverture de parapluie, oh, je vais être mouillé très rapidement. Hein?
Mouillé,
merci beaucoup. Ça aussi. Je vais sauter de ça. Quand je saute de la protection, la main protectrice de Dieu, je sors de toutes les protections de lui, je suis exposé au diable. Cet homme qui était, qu'est-ce qu'on peut dire? Cet homme qui a été un mauvais exemple pour le Corinthien. En 1 Corinthien, c'était un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et en fait, Paul a réglé l'histoire pour dire, voilà, je vais livrer cet homme à Satan. Il a fait la même chose avec Alexandre et Imias aussi. Il a dit, je vais laisser le diable avoir une responsabilité. Ça veut dire, il sort de la couverture de Dieu parce qu'ils sont bas de corps et maintenant ils sont exposés au diable. Et bien sûr, est-ce que Dieu est gracieux? Est-ce que Dieu va limiter l'exposure de le diable? Oui, il va le faire. Ça, c'est évident. Mais c'était pour une raison précise. On ne va pas rentrer dans ça ce soir. Mais simplement, il y a une couverture pour nous. Il faut accepter d'être couverte. Et on est couverte. Parce que quelle est la couverture pour nous? La parole de Dieu. On est en train de prêcher ce soir. Nous avons le corps de Christ qui est une couverture parce que nous avons des amis. On est une famille spirituelle avec une connexion. On prie pour Helmut ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait le dimanche passé? On a aidé, c'était Robert et moi qui ont aidé Ibrahim de marcher. Ça veut dire ceux qui sont faibles spirituellement, ils ont besoin d'être aidés. Donc, on est un soutien conduit par Dieu pour aider les gens dans une saison difficile, une saison peut-être de maladie, des autres problèmes. Et donc, la couverture là, c'est une couverture pratique aussi, parce qu'on a une vie pratique. On vit avec nos têtes connectées au ciel, mais nous avons nos pieds fermement placés ici sur la terre. On vit une vie concrète et solide. Donc, on peut dire dans ce point, on est protégé. Nous avons un Dieu qui nous défend et nous avons peu besoin de défendre nous-mêmes. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5, nous avons l'image de Josué, le souverain sacrificateur. Lui, c'est un livre de prophétie et lui, le sacrificateur est là avec le diable en train d'accuser de sa côté droite et l'ange de l'éternel, ça c'est Jésus-Christ, en train de défendre. On est ceux qui nous défendent. On est protégés. On n'a pas besoin de bâtir nous-mêmes dans cette guerre spirituelle. Jacques chapitre 4, verset 7. Comment on va combattre le bon combat contre le diable? Jacques chapitre 4, verset 6. 7, pardon. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça veut dire, je combats contre lui avec mes propres forces, avec ma propre intelligence. Proverbe 3, 5 et 6, je ne fais pas confiance et je confie pas dans ma propre force ni intelligence, mais j'ai une reconnaissance que c'est Dieu qui est en contrôle, je donne lui la gloire et lui, il va me protéger et me conduire. Donc, la protection, on ne lutte pas contre le diable, on soumet et le diable doit partir. Donc, pas besoin de penser que c'est à moi de faire. Je reste fermement comme ça, bien sûr, équipé avec l'armure de Dieu. Mais je ne sors pas de cette couverture parce que si je sors de la couverture de Dieu, je suis exposé. Donc, couverte, l'aspect de notre authority, et on est sous l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est ça. On est sous l'autorité de Dieu, c'est le Dieu qui va bâtir pour nous. Après Égypte, devant la mer Rouge, qu'est-ce que se passe? Est-ce que c'est les Israélites qui ont défendu contre les Égyptiens? Non. C'était eux qui, à Moïse, ont dit, taisez-vous et regardez. Délivrance, c'est Dieu qui va gérer l'histoire. C'est lui qui rend les comptes. C'est lui qui va défendre Israël contre les Égyptiens. Et des fois, en application, on essaie de bâtir avec notre propre force. On essaie de calculer avec notre propre intelligence. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? On a une capacité énorme. C'est entré dans psychologie biblique que nous sommes un être merveilleux parce que nous avons une capacité de sauter dans notre tête et imaginer un événement dans le futur et de retourner aussi dans le passé et de ne pas rester dans le présent. Donc, pour nous, il faut rester dans le présent avec Dieu, bien sûr avoir un avenir, mais avec lui. De ne pas calculer moi-même. Parce que quel est le problème quand je commence à faire ça? Je sors premièrement de la couverture de Dieu parce que je suis en train de penser avec ma chair. Maintenant, propre intelligence. Maintenant, dans l'avenir que j'imagine, il n'y a pas de grâce. La grâce est maintenant. Donc, de ne pas imaginer les choses. Je parle de ça parce que pas mal de nous, je pense, nous avons ce problème. Des fois, on imagine qu'est-ce que je vais faire demain et, mais qu'est-ce qui va passer? Et non, arrêtez et sachez qu'il est Dieu et la grâce pour demain et pour demain. Aujourd'hui, il a la grâce pour maintenant. Vivons et acceptons sa grâce et pas essayer de calculer pour demain. Bien sûr, les plans, il faut être organisé, mais pas calculer méticuleusement chaque détail. C'est Dieu de faire ça. C'est nous de marcher par la foi. Des fois, de marcher par la foi et que je ne peux pas voir l'avenir. Je marche pas à pas. L'image, je sors un peu le message, mais l'image en Psaume 119, verset 105, est une lampe. La parole est une lampe aux mes pieds. Pourquoi? Parce qu'une lampe ne peut pas briller très loin, mais une lampe peut illuminer juste devant moi et je peux marcher. Et la foi est de marcher pas à pas, pas d'avoir une vision de 20 ans, d'avoir une vision de 1 minute après l'autre. Parce que de vivre par chaque parole de Dieu et de vivre moment par moment avec Dieu. Pas de vivre maintenant, je fais ma temps avec Dieu, maintenant je vais sauter et j'oublie complètement Dieu pour le reste de ma journée. Non, c'est de marcher pas à pas, moment par moment. Il est de Dieu de des moments. Il est de Dieu qui vit dans les moments. Demande à lui. Demande à lui de remplir mon minute. On a parlé de racheter le temps, n'est-ce pas? Racheter le temps par imbiber mon moment avec la présence de Dieu. Comment je vis avec Dieu présent, je sais qu'il est là, donc je peux parler avec lui, je peux réfléchir avec lui, je peux laisser un espace pour lui dans ma vie et pas planifier chaque élément et laisser aucune lacune pour lui d'entrer. Si je planifie ma vie, est-ce qu'il a une place pour lui? Donc, couvrir, on est cette couverture de Dieu. Deuxième, une conséquence de notre autorité de Dieu, de laisser Dieu de gérer nos vies et d'accepter d'être soumis, et nous avons la possibilité d'avoir une telle hardiesse dans nos paroles. Pierre et Jacques, non, Pierre et Jean, Acte chapitre 5, verset 20. Ici, nous avons les Sanhedrin. Ça veut dire les 70 anciens, les 70 scribes, pharisiens, sadduciens, etc. avec le souverain sacrificateur. Devant ces érudits, intimidant d'être devant les experts religieux, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent suivre chaque parole et eux, ils sont les experts de la loi. Mais ils discernent quand Pierre et Jean sont devant lui, devant eux, que ces hommes étaient avec Jésus. Parce qu'ils ont parlé avec un certain hardiesse. Ils n'ont pas bougé. Pardon, je regarde le mauvais, c'est pas correct le verset que j'ai donné. Mais simplement pour dire, il discerne qu'il y a une autorité dans ses paroles. Pierre, il faut savoir que Pierre était pas un lâche, mais il était quelqu'un avec un problème avec quand il est devant les autorités religieuses. Parce que c'est intimidant d'être devant un expert. C'est comme on dit, on est l'expression anglaise « teaching your granny to suck eggs ». Ça veut dire en train de enseigner ce qui connaît très bien ce que tu es en train de expliquer. Donc, ils sont déjà connus un peu, mais apparemment pas, parce que ce n'était pas dans le cœur, c'était dans la tête. Donc, d'avoir cette hardiesse d'être devant le Sanhédrin et de parler, et c'était Pierre qui a fait ça, et il a dit « c'est vous ». Qui a tué le prince de cette vie. Le prince de la vie, c'est Jésus-Christ, qui est le roi, en fait, de la vie éternelle. Et de dire avec une audace, Étienne, c'était un homme en Actes chapitre 7 qui était un jeune homme. Lui, un diacre, il n'était pas un pasteur, il n'est pas un évangéliste. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était debout devant le Sanhédrin, il commence à donner l'histoire, le chapitre avec je ne sais pas combien de versets. Est-ce que c'est plus de 100 versets indirect reference de l'Ancien Testament? Il fait un survol de l'Ancien Testament, en fait. Je n'ai pas besoin, je peux demander à lui de faire ça demain soir. Mais il regarde, il dit, écoute, ça s'est passé en Israël, ça s'est passé. Et bien sûr, il peut dire, oui, on comprend, on est des Israélites, on connaît notre histoire. Et il dit, et vous, vous êtes toujours têtu, vous êtes toujours résisté le Saint-Esprit. D'arriver à la fin de son explication, un discours, de dire, voilà, et vous, vous ne suivez pas Dieu, vous ne suivez pas Dieu, vous êtes intéressé avec vos propres vies. Il faut avoir une telle confiance de faire ça, et lui en a fait. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'autorité de Dieu. Après, ils sont sortis de prison. Actes chapitre 5, verset 20. Libéré par un ange, qu'est-ce que l'ange dit? Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Emprisonné, oui, certainement, avec. Voilà, on peut dire, ils sont intimidés peut-être. On pense, OK, dans cette situation, peut-être je vais donner quelques jours avant que je retourne au temple et commence à prêcher de nouveau. Je vais laisser tranquille. Non, il est entré dans le fosse de lion de nouveau, tout de suite devant le Sanhédrin. En fait, ils sont en train de prêcher, donc bien sûr, évidemment, il va avoir une confrontation avec ces provocations, mais l'ange a dit, continue de faire le travail, prêche. Et des fois, l'application pour nous, avec cette autorité spirituelle, n'est pas de laisser tomber les choses, pas de lâcher, pas de lâcher l'affaire. L'affaire. Donc, continuons. Donc, un aspect de quelqu'un persévérant est de ne pas laisser tomber, de dire, oh, je laisse ça. Non, c'est de dire, OK, je vais le faire, je vais continuer. J'ai l'esprit d'un bulldog. Ah, je vais le faire. Donc, voilà, on est maintenant le dos droit, on est ferme, on peut dire, voilà, on est devant les autorités, et on peut dire, écoute, c'est Jésus-Christ, on peut prêcher ça, on peut annoncer. Parce qu'en fait, la belle chose est, le message est en nous. C'est pas juste que Pierre et Jean, ils ont prêché des paroles, ils ont en train de vivre ces paroles. Parce que comment il peut annoncer les paroles de la vie? Il vit la vie déjà. Donc, il connaît très bien la vie de Dieu parce que la vie de Dieu est en eux. Donc, il faut savoir, on est cette authority, un adies. Quand quelqu'un est rempli avec le Saint-Esprit, cette personne a un adies. Regardons, c'est un devoir pour nous, ok? Livre des Actes. Regarde combien de fois dans le livre des Actes, on voit quelqu'un était rempli avec l'Esprit et de voir qu'est-ce que se passe après. Pierre était rempli avec l'Esprit, il a prêché le discours de Pentecôte. Étienne, rempli avec l'Esprit, et il a parlé ce discours devant le Sanhédrin. Pierre, rempli avec l'Esprit, communique la vie de Dieu, le message de Dieu à Corneille, dans la maison de Corneille avec l'entourage de Corneille, Actes chapitre 10. Chaque fois, Actes chapitre 13, devant le préfect en Chypre, et c'est Paul qui confronte Elymas, le sorcier. Et lui, il est rempli avec l'Esprit, il regarde avec les yeux fixés, il dit, fils de diable, qui est toujours en train d'opposer les voies de Dieu. Voir, de dire ça, de confronter quelqu'un qui est possédé par un démon et de parler avec cette autorité. Ça, c'est quelque chose. On n'est pas religieux. On est des hommes et des femmes de nos paroles. Et on est des hommes et des femmes qui sont fermes. Un stéréotype de chrétiens quand j'étais jeune et des hommes ou des femmes qui sont timides. Un gentil mais timide. Pas de tout. Vois Pasteur Chibeli. Il est gentil, mais il est aussi. Il est oh. Comme ça, on ne peut pas te dire le mot timide. Et Pasteur Chibeli donne la même phrase. Lui, il est bouffe, comme ça, tranchant. Et j'aime ça quand je vois ça. Et je vois Pasteur Boyce. John Boyce, il est pas d'une taille très grande, mais il a la puissance de Dieu, une telle autorité. On peut être surprenant devant le monde parce que le joint nous regarde et on est méprisé. Mais on est quelque chose. On est la force de Dieu, on est la puissance de Dieu. Comment on peut sortir et évangéliser? Comment on peut être devant les gens? Comment on peut prêcher un message devant les gens quand peut-être on n'est pas dans une bonne forme? Parce qu'on est cette ADS, parce qu'on est sous l'autorité spirituelle de Dieu, et c'est une conséquence d'une vie avec Dieu que nous avons ça. Est-ce qu'on est à l'aise, comme j'ai dit au début du culte? Pas du tout. Des fois, on n'est vraiment pas à l'aise, on marche par la foi, mais on est cette autorité, on est sous l'autorité de Dieu. Ça, c'est point numéro 2. Ça passe bien pour vous tous? C'est bon? ADS, oui, d'avoir cette authority, cette conviction. Prochain point. Luc chapitre 10, versets 17 et 20. Nous avons l'autorité avec les démons. Luc 10, je vais tourner là. Luc 10, 10 à 20, 17 à 20. Donc, les 70 retournent, les 70, pardon, dans le second retournent au Seigneur. Ils ont reçu une autorité de Jésus-Christ pour évangéliser, pour entrer dans les villages. Ils retournent et disent, « Wow, c'est super, les démons sont soumis à nous. » Et il dit, « Oui, je vois Satan en train de tomber du ciel comme un éclair. » Donc, il voit le diable chuter du ciel. Mais il dit, je donnais l'autorité, bien sûr, mais il dit, verset 20, ce n'est pas une question d'avoir la joie dans le fait que tu as l'autorité sur les démons, c'est que vos noms sont écrits aux cieux. Donc, on est cette autorité, ça c'est la chose qui est importante. Une parole, et il faut savoir. Je vais tourner le deuxième passage, Actes chapitre 19. Et ça, c'est intéressant. On peut voir la différence entre ceux qui peut-être avec une autorité et ceux qui sont vrais, en fait, et ceux qui mimiquent, qui imitent, mais sans la puissance de Dieu. L'apparence de piété, peut-être, on peut dire. Donc, c'est les fils de Sceva. Je ne vais pas lire les versets tous les versets, mais en fait, ils ont entendu que Paul a chassé les démons en verset 13, et ces hommes, les sept fils de Sceva, un juif, donc c'est des, les hommes itinérants, avec un ministère itinérant. Et donc, il parle et dit, on vous chasse dans le nom de Jésus qui Paul prêche. Ça, c'est verset 13. Donc, voilà, il utilise le nom de Paul, il utilise le nom de Jésus. Et quelle est la réponse du démon? Il dit, Jésus, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, nous avons l'autorité. Et les démons connaissent nos noms. Ils connaissent nos réputations. Et quand on parle, nous avons cette autorité. Et le diable connaît cette autorité. Il n'aime pas, mais il accepte qu'il a une autorité. Et ça, c'est important de savoir que nos noms sont connus par le diable. Voilà, ce n'est pas si important que le diable connaît notre nom, on pense. Mais voilà, voir notre autorité avec Dieu. Mais voir qu'est-ce que se passe quand quelqu'un essaie d'utiliser l'autorité et qui n'a pas cette autorité. Le diable et le démon ne sont pas dupes. Mais qu'est-ce que se passe en verset 16? Il attaque et blesse tous ces hommes et ils chassent dehors de la maison. Donc ils sont blessés. Donc aucune autorité sur les démons. Mais nous avons cette autorité. Les gens pensent qu'il faut crier, il faut fortement, il faut prier les longues prières et tout. Pasteur Chibeli dit, le diable n'est pas sourd. Il a dit, vous n'avez pas besoin de dire, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sort. Une parole et les démons sortent. Parce que l'autorité, il connaît l'autorité. Nous sommes des brebis et en Jean chapitre 10, il est bon berger. Les brebis connaissent la voix du berger. Et les démons connaissent le nom de Jésus. Ils connaissent l'autorité de Jésus. La prochaine fois on est intimidé, on peut dire, écoute, je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Je connais ma maître. S'il y a des problèmes, parle avec mon avocat, Jésus-Christ. Tu ne parles pas avec moi. Donc, nous avons cette autorité. Donc, c'est tellement important de savoir l'autorité. Si on comprend l'autorité spirituelle que nous avons, on peut marcher droitement avec nos têtes, comme ça, devant Dieu. Réalité, on ne peut pas voir ça tout le temps. On peut, bien sûr, dans nos émotions, on est troublé. Mais il faut savoir que le marche par la foi et pas un marche par le vœu. On ne peut pas voir ces choses, mais c'est toujours vrai. L'autorité de Jésus de dire dans la tempête, le bateau est là en train d'aller dans toutes les directions et les disciples en train de crier. Et c'est des pêcheurs expérimentés sur le lac de Galilée en train de crier, donc c'était sérieux en fait, ils ont expérimenté, ils connaissent le météo de ce lac. Jésus, il a dit un mot, calme, et le vent, chut, et la tempête, un mot suffit. Si un mot suffit pour ressusciter Lazare, un mot suffit pour arrêter une tempête. Application, on est dans une tempête, et des fois on pense, impressionnant, compliqué. Comment je vais gérer cette situation? C'est de commencer avec une parole et maintenant nous avons un orage, nous avons les gens en train de crier, nous avons des disputes, des mauvaises malcompréhensions, incompréhensions. Et on peut dire, Seigneur, comment tu peux résoudre cette situation? Et le Seigneur dit une parole et c'est fini. Comme ça. Il faut savoir, rien n'est impossible pour notre Dieu. Il peut gérer les problèmes de famille. Il peut traiter des situations de travail. Il peut gérer les finances. Une parole par le nom de Jésus. On est les fils et filles. On est sous l'autorité de lui. Et est-ce que notre maître, notre Seigneur, est capable de traiter cette situation devant nous? Oui, il peut le faire. Une parole comme ça. Prochain point. Je n'ai pas trop de points, donc n'inquiète pas, on va finir. L'autorité, conséquence de l'autorité spirituelle que nous avons, et nous avons accès directement à Dieu. Accès. Pour demander un rendez-vous avec le pape, probablement on ne va jamais avoir un entretien avec lui. Deuxièmement, si c'était possible, il faut passer par cet intermédiaire. Il faut aussi visiter Rome, peut-être. Il ne va pas déplacer pour nous voir. Et, ou le gouvernement. Qu'est-ce qu'on doit voir avec le premier ministre britannique? Est-ce que ça va être possible pour moi ce soir de visiter et demander de parler avec elle? Probablement impossible. Premièrement, elle a beaucoup de travail, elle a juste commencé. Mais à part de mettre par l'exemple, on a accès jour à nuit à Dieu parce que Jésus-Christ a tracé le chemin, le sang est aspergé sur le lieu de miséricorde, le siège de miséricorde, la propitiation. Et le Père regarde le sang, il regarde pas ma péché. Il voit, quand il voit moi, il voit Christ. Il dit, viens. Et on vient et on approche. Et j'aime ce message, je vous encourage d'écouter ce message. Le premier message de dimanche à Camp de Montmiral, prêché par Pasteur Texier. On est proche, on est là dans le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est ça. On est dans le nom de approche avec le nom de quelqu'un d'autre. Ça, c'est notre privilège. Donc, accès jour et nuit. Rien est trop petit, rien est trop grand, rien est bête. Il faut simplement approcher le Seigneur et demander et parler avec lui. Et lui, la porte est toujours ouverte, jour et nuit. Il ne va pas nous juger, il ne va pas nous condamner. Ça, le jugement a été fait sur le croix pour nous. Donc maintenant, ce n'est pas un trône de jugement devant nous, c'est un trône de miséricorde pour chacun de nous. Donc, on peut approcher et accéder à Dieu directement. On peut parler. Le sang était préparé, le lieu était préparé, jour et nuit. Et ça, c'est une conséquence de notre autorité spirituelle. On est autorité d'approcher dans le nom de Jésus-Christ. Avec adias, avec autorité, avec assurance. Et on présente, on peut dire quelque chose de plus, parce que cette église, on est des gens vraiment qui ont des besoins concrets et vrais à ce moment, comme Helmut, par exemple. On peut approcher le trône et présenter jour et nuit. Seigneur, guéris Helmut dans le nom de Jésus-Christ. On peut présenter quelqu'un qui a été sauvé. On est présenté quelqu'un l'autre jour dans le nom de Jésus-Christ devant le Seigneur. On a prié pour deux personnes ces derniers mois, peut-être, dans cette salle. Est-ce que Dieu écoute quand on présente quelqu'un devant le trône? Oui. Est-ce qu'il aime? Oui. Donc, nous avons ce privilège de présenter les gens dans toutes les situations, et peut-être la personne n'est pas du tout intéressée, mais Dieu est intéressé, donc présente la personne devant. Voilà, ça c'est le quatrième point. Il y a un ordre dans notre vie. Ça c'est le prochain point, que les conséquences de l'autorité divine de Dieu sur nos vies. Ça veut dire quoi? L'ordre, Dans la création, Dieu a créé la terre et le ciel, premier jour. Il a créé tout jusqu'à le sixième jour. Le septième jour était là, si on repos. Autre, nous avons la semaine, grâce à le Seigneur, en fait. Nous avons sept jours. Grâce à la semaine, grâce à le Seigneur, nous avons la semaine. Et il faut que je dise qu'en fait, il y a un ordre dans notre vie, parce qu'en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il est un Dieu d'ordre et pas de confusion. Il veut ordre dans les cultes, et Paul est en train d'expliquer et enseigner l'église de Corinthe d'avoir une organisation dans l'ordre de culte. Ce n'est pas juste n'importe quoi, c'est vraiment organisé. Des fois, je rigole avec une blague, les gens disent, mais je ne suis pas pour la religion organisée. Je dis, n'inquiète pas, ni moi non plus, je suis, regarde-nous, c'est une blague, parce qu'on est organisé. Bien sûr, on est une organisation. Ça veut dire, un ordre dans nos vies, ce n'est pas le chaos. Exemple, on a parlé de ça dans la voiture aujourd'hui. On était maniaque avant on était sauvé. Ou on était peut-être l'autre extrême, on était tellement désorganisé. Et on peut dire, Osco, Seigneur, j'essaie de faire tous les 10 points d'aider moi-même. Tu veux acheter des livres qui disent comment il faut être un meilleur mari, comment il faut être un meilleur homme, comment il faut être un meilleur de faire le ménage dans la maison, pas avoir tous ces livres. Cette industrie de livres qui aide nous de s'améliorer en nous-mêmes. Mais écoute, le Seigneur, il ne faut pas acheter ces livres. Le Saint-Esprit est en train de nous aider de faire ça. Comment je gère ma journée? On prie au commencement, on demande au Seigneur, et jour après jour, le Seigneur va nous aider et on va trouver, on ne va pas être de cet extrême ni de l'extrême, on va avoir une discipline dans nos vies, on va avoir un bon équilibre dans notre vie. Notre vie va être organisée, mais on va avoir la liberté, on ne va pas être des esclaves qui doivent mettre toutes les choses et on perd notre paix qu'on n'arrive pas de faire ça. Si tu n'arrives pas de nettoyer le tapis avant tu pars pour l'église, ce n'est pas un problème. Il faut savoir et savoir qu'on n'est pas des esclaves d'un système. C'est une relation avec Dieu. Et oui, on peut nettoyer les choses. On est en liberté, on est en ordre. Mais en même temps, il est en liberté de marcher avec le Seigneur. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il met premièrement l'ordre dans notre âme. Pas nécessairement les choses externes. Ça commence avec les choses internes, dans notre cœur. Et le Seigneur va organiser nos pensées. Donc la transformation, Romains chapitre 12, verset 2, est une transformation avec ordre parce que le diable est l'auteur de confusion. Et lui, il amène la confusion dans les vies des gens. Mais notre Dieu va amener l'ordre parce que l'amour va nous organiser. On va être poussé principalement de Dieu, on ne va pas être vague, on va être, qu'est-ce qu'on dit, en train d'être ballotté dans toutes les directions. Non. On va savoir, on peut faire les courses. Il faut savoir des fois, juste pour un exemple concret, on prie pour les courses avant pas et on dit, Seigneur, protège-nous, bien sûr, dans la voiture, protège-nous dans le supermarché et aide-nous de ne pas oublier les courses. Et des fois, on arrive avec, il faut acheter ça. Parce que le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut allumer nos pensées d'acheter le papier de toilette, par exemple, ou le papier de ménage? Oui, il dit, écoute, il faut acheter ça aussi. C'est les exemples concrets un peu banals, mais il faut savoir, Dieu vit dans la banalité aussi, il vit dans notre quotidien et il va aider nous à organiser. Donc, comment je peux organiser ma journée? Comment je vais organiser demain soir? Au secours, aide-moi, Seigneur, avec le cours. Oui, il peut le faire. C'est de laisser lui l'espace. C'est une conséquence de cette autorité spirituelle dans nos vies. Des fois, il est notre GPS. Il est notre GPS parce que, en Ésaïe, je ne rappelle pas exactement la référence, il est la voix la parole derrière de moi qui dit voici le chemin, marche. Voilà. Walk there in it. Amen. Wow. Donc, vois comment notre Dieu va organiser nos vies. Parce que le monde est en chaos, mais Dieu est un Dieu d'ordre, avec amour, bien sûr. Et dernière chose, il y a un repos, une conséquence importante de cette autorité spirituelle, et nous ne sommes pas les rois de nos propres vies. On a laissé le trône à Dieu, qui maintenant est notre roi, notre Seigneur. Il va gérer notre temps. Et lui, on peut reposer et marcher dans les choses qu'il a préparées pour nous. Repos. C'est vrai, on travaille, mais on peut reposer en même temps. Parce que ce n'est pas une question de le corps qui repose. Mais comme nous avons dit plusieurs fois, on est esprit, âme et corps, tout s'est connecté. Et des fois, on est plus usé, plus fatigué dans notre âme, plus que le corps. Et le problème n'est pas de tenter de réguler le corps, c'est de réguler les choses dans l'âme. Et quand nous avons ce repos dans l'âme, bien sûr, qu'est-ce qui va passer? Le corps va expérimenter ce repos. Tu peux dormir tout ce que tu veux. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un en pressé, mais tu peux dormir. Je connais quelqu'un en particulier qui essaie de dormir trop, mais cette personne n'est jamais en repos. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas en repos, parce que l'esprit n'est pas en repos, parce que Dieu ne règne pas dans la vie de cette personne. Et Dieu dit, repose, marche avec moi, laisse-moi porter le joug le plus lourd, c'est moi qui vais le faire. Et ton repos peut reposer. Et ça, c'est une conséquence de la vie spirituelle, d'accepter de marcher avec cette autorité. Je suis un homme comme le centurion a dit. Je connais, Seigneur Jésus, je suis aussi un homme de l'autorité et j'ai des autres qui sont soumis. Il a compris bien le concept d'autorité et autorité déléguée. Et nous sommes dans ce cas. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose juste pour ajouter que j'ai oublié de mentionner. Quand on est en train de parler avec quelqu'un, des fois, on met trop de pression sur nous de convaincre les personnes devant nous. Nous sommes sous l'autorité de Dieu, c'est lui à convaincre les personnes devant. Jean chapitre 16, verset 8, le Saint-Esprit, le Consolateur, son ministère est de convaincre le monde de la péché, la justice et le jugement. Donc, il est très bien à l'œuvre. Et nous, on n'a pas besoin de convaincre les gens, on a besoin de présenter le message. Et pour Samuel, il a pris très personnellement pour lui. Je note quelques versets dans le 1 Samuel, que Samuel était sensible à quelque chose. Quand le peuple a rejeté Samuel et demandé un roi, Samuel était blessé par ça. Et Dieu a dit, écoute, le peuple, c'est pas toi qui es rejeté, c'est moi. C'était quelque chose, qu'est-ce qu'on peut dire, que j'ai compris en avance. Donc, prends pas ça personnellement. Et l'application pour nous, c'est quand les gens, on est rejeté par les gens, et c'est le nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'on est sous l'autorité de Jésus-Christ. Si le maître était rejeté, les disciples vont être rejetés aussi, mais c'est parce qu'on est sous son autorité. Et donc, c'est lui. Donc, on peut dire, ok, pas de problème, vous avez rejeté Dieu, ok, c'est devant vous de parler avec lui. Moi, je vous laisse. Et donc, c'est d'accepter que la pression n'est pas sur nous. Et je connais des fois des chrétiens qui sont très... ils prennent ça personnellement et ils sont tellement un joug de dire, voilà, je dois prêcher, je dois convaincre. Non, tu n'as pas besoin de convaincre la personne. Tu présentes l'évangile, tu parles avec amour, tu comportes avec le mot de Dieu. Ça, c'est partie de la présentation, la vie en fait, pas juste les paroles. Et après ça, voilà, c'est Dieu. C'est avec Dieu de faire. Donc des fois, on met trop de pression sur nous-mêmes de penser que c'est à nous de faire. On est une partie de faire, après c'est Dieu qui doit le faire. Et lui, il va à cette partie comme... quel est le nom? The cross and the switchblade. Nicky Cruz and David, David Wick, sorry? Ouais. David Wilkerson. Et lui, il a parlé avec Nicky Cruz et il a dit, Dieu t'aime. Et Nicky Cruz a donné un claque parce qu'il était dans un gang, il était un criminel. Et il n'a pas accepté le message de Christ. Mais il est retourné chez lui et le soir, il a entendu cette phrase en train de tourner dans sa tête. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il ne peut pas arrêter d'écouter ça parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. David Wilkins était bien utilisé, mais après, il a laissé. Des fois, c'est à nous de laisser l'espace et de dire, OK, je n'ai pas allé, j'ai fini. En fait, des fois, notre silence de ne pas essayer de pousser les gens est beaucoup plus puissant. Parce que c'est Dieu qui va convaincre. Et c'est nous qui disons tranquille. Donc on est en repos.